lourd pour le journal. Bonsoir Marion.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. À la une ce soir, libérés, démasqués et pas prêts de se coucher, le Premier ministre annonce l'allègement des restrictions sanitaires.
Nous vivons un moment important, un moment heureux de retour à une forme de vie normale.
Plus de masques dehors dès demain, fin du couvre-feu le 20 juin. Première réaction dans ce journal. Nous verrons aussi comment l'annonce de l'exécutif s'inscrit dans le calendrier politique. Tout ça, c'est également au menu du Téléphone Sonne ce soir, Fabien.
Et oui, à vous de jouer au 01 45 24 7000. C'est sûr, ça soulage. Mais vous nous direz quand même ce que vous en pensez. Est-ce que le risque réel de ce variant indien Delta à nos portes va faire accélérer la vaccination ou au contraire, avec les restrictions relâchées, est-ce que beaucoup vont se dire finalement, la piqûre, ce sera pour plus tard? On en parle donc ensemble dans un instant.
Dans ce journal, encore une rencontre constructive entre deux présidents rivaux. Le sommet Biden-Poutine se termine avec des liens renoués. Nous serons à Genève où avait lieu la rencontre. Nous serons aussi en Seine-et-Marne avec une bataille épique pour les élections départementales entre deux duos, les Républicains, dont un soutenu par le RN. À suivre aussi, la perpétuité pour le féminicide de Julie Douib en Corse. La deuxième chance des terminales à Parcoursup. L'envers du décor du match des Bleus. Hier à Munich, on a frôlé le drame au-dessus du stade et puis on remet le son. Notre maison de la radio devient maison de la radio et de la musique. Un concert pour un baptême, c'est en ce moment, on y sera et on vous racontera.
France Inter.
Vous le sentez, ce petit souffle d'air malgré la chaleur sur votre menton et votre nez face au recul de l'épidémie de Covid. Le gouvernement nous autorise sans délai à nous démasquer en extérieur, annonce faite à la mi-journée par le chef du gouvernement à la sortie du Conseil des ministres. Le masque tombe donc, sauf dans les lieux de regroupement, file d'attente, marché, tribune de stade, cours d'école. Autre restriction abandonnée bientôt, le couvre-feu à 23h. Ce sera terminé dimanche 20 juin prochain. Dès dimanche soir, vous aurez donc la permission de minuit et plus. Des décisions auxquelles vont sûrement trinquer ce soir les patrons de bars et leurs clients. Valentin Belleville, bonsoir.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous.
Vous avez promené votre micro dans un établissement parisien près de la place de la République.
Oui, je peux vous dire Marion qu'il y a des sourires sur la terrasse du Soprano près de la place de la République. L'annonce de la fin du couvre-feu dès dimanche fait un grand bien à tout le monde. Il y a même un peu d'émotion.
Il y a eu la petite larme, ouais. Non, mais oui, on est soulagé. Après, on espère que ça va durer, ouais.
Du soulagement pour Tara, un sentiment de libération a parcouru Franck, venu prendre un verre avec un ami.
Je pense qu'on a besoin de respirer aussi. Il fait très chaud, on a besoin de sortir, donc
ça va être l'occasion.
Ouais, ça c'est un bon signe d'indicateur positif et d'optimisme pour l'été, ouais.
Le bonheur des clients, mais aussi celui des travailleurs. Les soirées vont s'allonger plus tôt que prévu et c'est une bonne nouvelle. Aminata est la responsable du restaurant Soprano.
Là, il y avait des gens qui venaient pour manger, par exemple, après 21h. Bon, difficile de les recevoir. Donc du coup, on travaillait bien et on travaillera encore plus, plus de chiffres. Donc ouais, c'est cool.
Mais les serveurs, eux, se préparent physiquement à tenir ces longues soirées. Sabine travaille dimanche pour la levée du couvre-feu.
Dimanche, ça va être son soirée danse. Après, les cuisines ferment un peu plus tôt, donc ça va surtout être pour le barman où ça va être un petit peu le rush. On va y arriver.
Voilà, la soirée s'annonce donc dense dimanche. Il va falloir se presser entre les allées de la terrasse du Soprano. 180 places qui devraient être prises d'assaut, Marion, jusqu'à la fermeture à 2h.
Valentin Belleville pour France Inter, Benjamin Puot à la technique, merci à tous les deux. Plus de couvre-feu dès dimanche soir, mais le protocole reste le même pour la fête de la musique. Le 21 juin, seuls les concerts organisés sont autorisés. Par ailleurs, le festival des Vieilles Charrues annonce ce soir qu'il se tiendra cet été debout. Cette nouvelle étape du déconfinement est rendue possible, selon Jean Castex, par la baisse de la circulation du virus, plus rapide qu'espéré. On n'a pas vu mieux depuis août dernier. Le nombre de contaminations passe à 3200, sous la barre des 5000 par jour, chiffre qui correspond à une maîtrise de l'épidémie. Cette levée des restrictions est donc logique, selon Karine Lacombe, infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.
C'est vrai que par rapport à l'été dernier, la donne a changé parce qu'on a quand même la vaccination avec un nombre de plus en plus important de personnes qui sont vaccinées. J'espère d'ailleurs que l'effort vaccinal va encore s'amplifier, ou en tout cas va se poursuivre malgré l'arrivée des vacances. Donc qu'on enlève le masque, je pense que c'est plutôt une bonne chose. On sait qu'à l'extérieur, il y a finalement peu de contaminations qui se passent, même voire très très peu. En revanche, chacun est assez intelligent pour comprendre que si le masque n'est plus utile à l'extérieur parce que l'épidémie est actuellement en pleine récession, ça ne veut pas dire que le risque devient nul à l'intérieur. Donc je pense qu'il faut de la pédagogie, mais je fais assez confiance aux Français pour comprendre qu'à l'intérieur des bâtiments, là où le virus a un risque de se transmettre, on va continuer à le porter.
Pas si vite, répond en revanche Djilali Annane, médecin à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, en région parisienne.
La marque de l'été, en tout cas en France, c'est la marque du relâchement, il fait beau, c'est les congés et on a envie de vivre. La situation sanitaire en France est bonne, voire très bonne. Mais cette situation sanitaire, elle n'est pas non plus optimale pour deux raisons. La première, c'est que le variant Delta est installé en France. Et deuxièmement, on voit bien qu'on n'a pas encore l'immunité collective par la protection vaccinale. Donc oui, on va revivre ce que l'on a vécu l'été dernier, c'est-à-dire un relâchement, à mon avis, trop important des gestes barrières, qui peut favoriser le développement et la propagation du variant Delta et donc nous emmener vers une quatrième vague au mois de septembre ou d'octobre.
Face à face au micro de Véronique Julia, des restrictions sanitaires qui sautent. Pourquoi ? Et est-ce bien raisonnable ? On en reparle dans le téléphone sonne sur Inter. Ajoutons que le Premier ministre fixe aussi un nouvel horizon pour la vaccination. 35 millions de personnes complètement immunisées d'ici la fin du mois d'août. On est à 16 millions ce soir. Français démasqués et bientôt le retour de la bamboche avec la fin du couvre-feu, ajouté à cela la victoire des Bleus pour leur match d'ouverture de l'Euro hier. La séquence est très positive pour l'exécutif. Bonsoir Yael Gauz.
Bonsoir Marion.
Et tout ça tombe très bien, à quelques jours à peine des élections régionales et départementales.
Oui, c'est un surf très maîtrisé sur la vague du retour à la normale. Sans triomphalisme, mais parfaitement orchestré. Les annonces surprises, c'était Jean Castex ce midi, suivi du SAV du président cet après-midi dans les allons du salon Vivatech.
On avance de manière toujours pragmatique et proportionnée au vu des résultats qui sont les nôtres. Je pense qu'on ne peut que se féliciter que nous ayons eu la bonne stratégie.
Nous, c'est qui ? C'est il en fait, c'est lui, c'est le président, applaudissent les cadres de la majorité. Il a tenu bon contre tout le monde et il réussit, le félicite François Bayrou. La France, libérée du masque, délivrée du couvre-feu à 4 jours du vote, bientôt les discothèques. Décision lundi, nous dit-on, premier jour de l'été. Accompagner la France qui repart, c'est aussi s'associer aux Bleus qui brillent à l'Euro. Il montre la voie, tweet présidentiel liké plus de 44 000 fois hier soir. Un agenda présidentiel à la géographie très politique. Les Hauts-de-France demain pour le président, tiens, pour parler francophonie et avenir de la langue française, la région de Xavier Bertrand, dans une ville RN, Villers-Cotterêts. Où qu'il aille, vous direz qu'il fait de la politique, rétorque l'Élysée. Des régionales beaucoup plus nationalisées que prévu, 15 ministres en campagne et des candidats qui mettent la photo d'Emmanuel Macron partout sur leur tract. Vendredi, ce sera le Mont-Valérien, l'appel du 18 juin, mémorial de la France combattante. Toute référence au régional serait proscrite et dérisoire, mais face à la poussée RN, tout le monde y pensera très fort.
Vous en parliez, Yael, Emmanuel Macron dans la Somme et l'Aisne demain pour échanger avec des élèves sur l'éducation. Mais le chef de l'État a reçu une autre invitation, celle des anciens salariés de l'usine de sèche-linge Whirlpool à Amiens. Site fermé en 2017 et délocalisé en Pologne. Et au chapitre éco encore, puisque l'horizon sanitaire s'améliore, pourquoi ne pas accélérer la convalescence du secteur économique, lui aussi durement marqué par l'épidémie. Aux États-Unis, l'administration Biden a distribué des chèques pour faciliter cette relance. Aujourd'hui, les membres du Conseil d'analyse économique qui murmurent alors de Matignon suggère d'imiter cette solution, mais en confiant la mission à la Banque Centrale Européenne. Ça s'appelle la monnaie hélicoptère. Mais Fabien Cazot, l'idée ne remporte pas un franc succès, si on en juge par la réaction aujourd'hui de la Banque de France.
La monnaie hélicoptère ou hélicoptère monétaire fait référence à un concept forgé aux États-Unis à la fin des années 60, comme si on larguait des liasses de billets sur les consommateurs sans aucune contrepartie. Une solution extrême à la limite de l'absurde évoquée comme telle par les monétaristes de Chicago et leur chef de file Milton Friedman à l'époque. Une arme économique pour encourager la consommation et donc l'inflation, totalement à contre-temps dans l'Amérique des années précédant les chocs pétroliers alors en plein boom. C'est pourtant la même Amérique, plus d'un demi-siècle plus tard, qui s'y convertit pour tenter de se remettre de la crise sanitaire. Car cette fois, la déflation menace. Les Américains ont bel et bien reçu des chèques de l'État fédéral pour les encourager à consommer. Un choix que le gouverneur de la Banque de France déconseille aujourd'hui chez nous et que le gouvernement semble d'ores et déjà avoir écarté, expliquant notamment que ces chèques pallient aux États-Unis l'absence de minima sociaux.
Fabien Cazot, chef du service économie de France Inter.
Et à 19h09, Marion, lors d'un premier bilan pour la rencontre au sommet entre le président russe Poutine et son homologue Joe Biden.
Un sommet tendu à Genève, mais le décor idyllique du lac Léman a peut-être permis d'apaiser les esprits entre ces deux routiers de la politique opposés sur bien des points. La cyberguerre reprochée à la Russie, le soutien du Kremlin au régime biélorusse, le sort réservé à l'opposant Alexei Navalny. Et pourtant, à l'arrivée, bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Marion.
À l'arrivée, les présidents russes et américains ont eu une rencontre constructive, plutôt cordiale. Cela dit, Poutine ne lâche rien sur les dossiers épineux.
Effectivement, il ne lâche rien sur les dossiers épineux. Vladimir Poutine reste Vladimir Poutine. C'est le cas notamment lorsqu'on l'interroge sur le cas de son opposant, Alexei Navalny, dont il refuse toujours ostensiblement de prononcer le nom. C'est le cas, là encore, lorsqu'il est interrogé sur le sort réservé à ses opposants. Lorsqu'on lui parle de violation des droits de l'homme, Vladimir Poutine répond Guantanamo, bref, même en pleine détente, le leader russe continue à faire ce qu'il sait faire. Ceci dit, par ailleurs, et il a largement insisté sur ce point, le numéro 1 du Kremlin a souhaité insister sur le fait que Joe Biden était, je le cite, un homme constructif, responsable, expérimenté, que cette rencontre, globalement, avait été constructif, un sommet qui aurait donc tenu ses promesses et dont la première conséquence concrète sera le rappel des ambassadeurs dans les deux capitales. L'un et l'autre n'étaient plus en poste suite au cycle de sanctions qui s'était engagé entre les deux pays. Vladimir Poutine qui a aussi affirmé que Russes et Américains s'étaient entendus sur un dialogue en matière de cybersécurité. Et là, il s'agissait d'un sujet particulièrement brûlant entre les deux nations suite aux accusations mutuelles, suite à des cyberattaques, notamment sur des sociétés américaines. Voilà, on attend maintenant la version Joe Biden, le président américain, qui doit débuter ici à Genève dans quelques instants, à son tour, sa conférence de presse.
Sylvain Tronchet en direct de Genève pour France Inter avec les moyens techniques d'Éric Audra. Merci à tous les deux. À l'étranger encore, la force française Barkhane fait une arrestation au Mali. Un cadre du groupe État islamique, l'homme suspecté d'avoir mutilé plusieurs personnes début mai, s'est rendu sans résistance. Une peine de prison à perpétuité, c'est inédit dans un cas de féminicide. Cette peine, elle vient d'être prononcée contre Bruno Garcia Cruciani, 44 ans, par la cour d'assises de Bastia, en Corse. Une peine conforme aux réquisitions pour l'ex-compagnon de Julie Douib, tuée en 2019. Elle s'explique cette peine par la violence de l'acte et l'absence de regret de l'accusé. Hélène Battini a suivi l'audience.
À la question « Bruno Garcia Crujani est-il coupable d'avoir donné la mort volontairement ?» Julie Douib, la cour a majoritairement répondu « oui ». En avait-il formulé le dessein ? C'est également « oui » à la majorité. Des réponses qui établissent sa culpabilité et la préméditation dans ce dossier. La reconnaissance de l'intention de tuer a été motivée par le port de son arme chargée, dont il connaissait le maniement lorsqu'il s'est rendu chez la victime, mais aussi le fait de ne pas avoir contacté les secours. La préméditation, question centrale du procès, a été établie par les menaces proférées par Bruno Garcia, mais aussi le fait qu'il se soit rendu au domicile de la victime et n'y soit resté que 4 minutes, écartant la possibilité de discuter comme il le prétendait. Son alibi, son emploi du temps également ne correspondent pas, selon la cour, dont la présidente a expliqué que la personnalité vindicative et impulsive n'avait pas joué en sa faveur, malgré son enfance tourmentée. Enfin, l'audience civile qui a suivi a vu prononcer par la cour le retrait de l'autorité parentale de Bruno Garcia Crujani et sur ses enfants, par mesure exceptionnelle pour les protéger à la demande des magistrats et non pas de la partie civile. C'était la principale inquiétude de l'accusé.
Hélène Battini de France Bleu Frequenza Mora, l'accusé a 10 jours pour faire appel. Lui avait participé en décembre dernier à une marche blanche en l'honneur de sa compagne disparue. Le mari de l'infirmière Delphine Jubilard, dont on n'a plus de nouvelles depuis 6 mois, est en garde à vue ce soir. La mère et le beau-père du trentenaire le sont également. Le parquet de Toulouse fera un point à l'issue de ces gardes à vue qui peuvent durer jusqu'à vendredi soir. On en parlait un peu plus tôt dans ce journal. Dimanche, c'est jour d'élection, scrutin régional mais aussi départemental. En Seine-et-Marne, il reflète bien l'éclatement de la vie politique actuelle dans le canton de La Ferté-sous-Jouarre. Deux binômes de droite se retrouvent face à face, revue des forces en présence avec Élodie Forêt.
Deux communes voisines, deux maires qui se déchirent. Celui de La Ferté-sous-Jouarre, Hugo Pezeta, membre d'Agir et investi par LR. Au grand dam de Fabien Vallée, maire Les Républicains de Jouarre.
Agir, c'est un parti macroniste et on n'est pas d'accord que la droite ait des accords avec Macron.
Dans le département de Christian Jacob et de Jean-François Copé, Fabien Vallée et sa binôme franchissent alors la ligne rouge, accepter le soutien du RN et faire sauter les digues.
La digue, il n'y a que le politique qui la voit. On a plutôt des gens qui viennent nous voir et qui nous disent que c'est ce qu'ils attendent, qu'il ne faut pas qu'on ait peur parce qu'en fait ils votent RN depuis longtemps, que c'est ce qu'ils veulent.
Face à lui, Hugo Pezeta, soutenu entre autres par Valérie Pécresse, se défend de tout macronisme.
Il faut bien qu'on trouve un reproche au candidat. On m'en invente un, celui d'être le vilain petit canard qui soutient la politique nationale, alors que je n'évoque jamais la politique nationale.
Pendant ce temps, le RN local savoure. Demain, d'autres élus nous rejoindront, indique-t-il dans un communiqué. Quant à la gauche, menée ici par Pierrick Thébault, elle ne compte pas jouer les arbitres.
Cette idée de faire front républicain, ça va légitimer ou permettre la continuité d'une politique qui ne répond pas aux problèmes. Et donc, moi, j'ai des difficultés à me dire le front républicain sans arrêt.
A priori, pas de consigne de vote, donc, si second tour il y a. Fabien Vallée, lui, rêve de l'emporter dès dimanche et de prendre sa revanche sur les cadres locaux de LR qui ont demandé son exclusion du parti.
Et on rappelle les élections, premier tour dimanche, le suivant, le 27 juin. Et fera-t-il beau dimanche? Jour d'élection, pas sûr. En tout cas, attention aux orages ce soir après la forte vague de chaleur. 28 départements sont en vigilance orange, l'ouest essentiellement et le département du Rhône. Point complet sur la météo à la fin du journal. Allez, encore une bonne nouvelle. Un message d'espoir pour les lycéens, cette fois les déçus de Parcoursup. Ils ont droit à une nouvelle chance. La phase complémentaire vient de s'ouvrir. Ça veut dire que les candidats peuvent à nouveau formuler des vœux s'ils n'ont pas eu la filière qu'ils souhaitaient. Mode d'emploi avec Sonia Princey.
Toutes les places encore disponibles vont apparaître sur la phase complémentaire. Alors bien sûr, ce sont les formations les moins demandées ou sur des domaines d'études très pointus. Mais les candidats vont pouvoir reformuler 10 vœux. Ils devront se connecter régulièrement car la liste évoluera tout l'été au fur et à mesure de l'apparition des places non pourvues. Qui est concerné? En priorité ceux qui ont reçu des réponses négatives ou qui sont en attente sur tous leurs vœux, mais aussi les candidats qui ont reçu une proposition d'admission qui ne leur plaît pas et qui sont en attente sur le reste. Mais attention, ils ne peuvent pas redemander exactement la même formation à laquelle ils ont déjà postulé en phase principale. En revanche, ils peuvent demander cette même filière dans un autre établissement ou avec un parcours différent. Exemple, une classe préparatoire dans un lycée moins sélectif ou une licence avec une option particulière. Mais le principe ne change pas. Si le candidat reçoit plusieurs propositions d'admission, il ne peut en accepter qu'une. Il doit choisir celle qu'il préfère, que ce soit en phase principale ou en phase complémentaire. La première fonctionne jusqu'au 16 juillet. La seconde jusqu'au 14 septembre.
Les footballeurs français victorieux hier décollent pour la Hongrie ce soir.
Prochain adversaire des Bleus samedi, la Hongrie, donc à Budapest. S'ils gagnent, c'est un ticket pour les huitièmes de finale. En attendant, retour sur ce match contre l'Allemagne, remporté 1-0 hier. On a vu le travail des défenseurs français sur le terrain. On a vu les Bleus renoncer à poser un genou à terre. Pas assez d'unanimité au sein des équipes de l'Euro. On a moins vu cette ULM qui a failli s'écraser sur la tribune du Stade Munichois. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Marion.
On l'a appris cet après-midi, le pilote de l'ULM, j'y vais y arriver, militant de Greenpeace, a manqué d'être abattu par la police.
Oui, le pilote ne devait que survoler le stade et faire tomber sur la pelouse un ballon en latex avec un message condamnant les voitures jugées trop polluantes du constructeur allemand Volkswagen, partenaire officiel de cette compétition européenne. Tout ne s'est pas passé comme prévu, il perd le contrôle de son engin après avoir heurté un des câbles portant la Spider-Cam qui permet pour la télévision d'offrir des vues aériennes. Il y a là sur le toit des tireurs d'élite, ils ont cette ULM dans leur viseur mais renoncent à appuyer sur la gâchette quand ils aperçoivent le logo Greenpeace sur le paravoile. L'ULM rase les tribunes avant de s'écraser sur la pelouse. Le sélectionneur français Didier Deschamps évite de peu des débris. Deux spectateurs sont blessés, un Français et un Ukrainien qui ne verront pas le match et passeront la nuit à l'hôpital. Le pilote, lui aussi blessé légèrement à la jambe, a été remis en liberté dans l'attente d'un jugement. C'est un médecin allemand de 38 ans, un habitué depuis une dizaine d'années des actions de haute voltige de l'ONG à la centrale nucléaire française de Bugey dans l'Ain en 2012 ou tout récemment un atterrissage sur le toit de la Banque Centrale Européenne à Francfort. Greenpeace s'est dit désolé et regrette d'avoir mis en danger du public.
Ludovic Piétenu, correspondant de France Inter en Allemagne. Allez, retour sur la terre ferme, celle qui est ronde comme la maison de la radio. Notre maison de la radio et de la musique. Elle adopte ce soir officiellement ce nom avec pour tous un concert en bord de Seine démarré en milieu d'après-midi. Vous y êtes pour France Inter. Bonsoir Mathieu Culeron.
Bonsoir.
Quelle ambiance pour ce baptême ?
Une ambiance festive puisque je me trouve ici à quelques mètres de la maison de la radio et de la musique puisque c'est bien ce changement de nom qu'on célèbre aujourd'hui. Une grande scène a été installée sur cet ancien parking. Derrière cette grande scène, on voit la Tour Eiffel, devant la Statue de la Liberté. Et pour tout vous dire, on se croirait dans un vrai festival avec des loges, un public, des gradins qui ont été montés pour l'occasion. Bref, une atmosphère estivale de fête. Tous les styles seront représentés, du rap avec Giorgio et Youssoupha. Ensuite, l'Orchestre National de France fera une répétition répétition dans l'auditorium. Et puis on retournera dehors entre 20h10 et 22h30 où on retrouvera la chanson de Lulu Von Trapp, Jean-Louis Aubert, tête d'affiche de cette soirée, le chanteur de téléphone qui retrouvera la scène avec une émotion toute particulière. Et puis Hervé, victoire de la révélation masculine de l'année et artiste inter qui clôturera donc cette soirée. Tout un symbole puisque c'est un artiste qui est né artistiquement pendant le confinement et qui malgré tout a connu le succès. Des concerts gratuits, on le répète, vous pouvez venir ici en face de la maison de la radio et assister au concert dans la limite des places disponibles. Un lieu qui pourra d'ailleurs continuer à accueillir des artistes prochainement puisque Radio France va bien organiser son festival l'hiver prochain, l'Hyper Festival. Réservez vos dates, Marion, ce sera le 21, 22 et 23 janvier prochain.
Mathieu Culeron pour Inter avec les moyens techniques d'Yvan Turc. Et ben, bonne fête de la maison de la radio, Fabienne.
Mais j'y vais en sortant, moi, figurez-vous. Tout à l'heure à 20h, Jean-Louis Aubert, c'est pour moi.
Jusqu'à 23h.
Absolument. Marion, merci. Enfin, un peu avant, évidemment, parce que le couvre-feu est toujours à 23h. Merci beaucoup, Marion. À demain.